tordu. C'est la deuxième émission, un an après la première. Et je suis avec Estelle Benazet-Heugenhauser. Bienvenue.
Merci.
Comment tu te sens ?
Écoute, ça va.
Parce qu'on est nus. Du coup.
On est nus dans ce petit studio à la Villette. Et il y a ces rideaux. C'est pas du velours ? Si, c'est un peu du velours. Donc quand même, qui nous isole pas mal. Et de l'autre côté, on a les paravents qui nous cachent de l'équipe. Et puis, on a cette table un peu rugueuse qui nous ramène bien au réel avec ses angles, avec presque des petites échardes. Ça devait être du MDF ou un truc comme ça, qui nous rappelle les genoux.
Donc, c'est comme ça que tu te sens. J'aime bien cette réponse. Parce que c'est, en fait, on plonge du coup dans ta façon d'écrire. Enfin, je ne sais pas à quel moment je pensais en arriver là, mais à un moment, je me suis dit que j'avais vraiment l'impression que c'était des... Enfin, que ton écriture, c'était souvent des corps qui entrent en collision, des choses, je ne sais pas comment dire, mais où des fois, le jeu, il est... Je ne sais pas comment dire. Voilà, il y a une... pas forcément d'individualité, où finalement, les conditions physiques et les conditions en général, voilà, c'est ça qui s'exprime. Et donc là, je me dis que ça démarre... un peu comme ça, quoi, du coup.
Écoute, c'est marrant que tu me dises ça, oui, parce que j'ai l'impression que quand j'écris, il y a cette chose qui arrive, c'est que souvent j'enlève le « je » et j'enlève les pronoms de possession. Au lieu de dire « mon bras » ou « son bras », je dis « le bras » ou « les jambes » au lieu de « mes jambes ». Et en fait, je pense que ça nous déporte un petit peu dans la lecture, où il y a un trouble, en fait, une sorte de... comme tu dis, de rencontre ou de sortie de soi, quelque chose comme ça. Mmh. Puis, je crois qu'il y a aussi une rencontre avec l'environnement du corps qui parle, que ce soit dans le régime parfait, avec la cuisine, les objets, que ce soit avec l'extérieur, le paysage, ou même dans les nouvelles que j'ai écrites, comme « Bêcher son visage », il y a vraiment des sensations, des fois très microscopiques, disons, de l'ordre de sensations très fines. Et par contre, d'autres fois où là, la claque devient de plus loin et de plus large.
J'ai pas dit que t'étais écrivaine et chercheuse, je pensais le dire plus tôt. On commence à le comprendre. Et on va parler donc du régime parfait, t'en as un petit peu parlé. C'est ton roman, je sais pas, qui est sorti il y a un an.
Ouais, il est sorti, je crois, en mars 22.
Chez Rothel Express. Alors, ça m'a frappée, mais t'as dû y penser. Mais moi, je me suis dit, mais le mot régime, le régime parfait, c'est aussi... Donc, c'est un régime diététique, il est question d'alimentation. Mais c'est aussi un régime politique. Non, le mot régime, j'ai vraiment mis du temps à ce que ça me traverse.
Oui, absolument.
C'est tout l'enjeu, non ? C'est ça ?
Absolument. C'est vrai que le titre... J'ai pris beaucoup de temps à trouver le titre. Pendant très longtemps, avec Alaric et Léna, donc les éditeuristes de Rothel Express, on en parlait. Moi, je me disais, est-ce qu'un titre comme « Pour l'extinction », ça pourrait être pas mal. Enfin, j'aimais bien le côté très autoritaire. Ça présageait peut-être un peu trop. Ça en disait peut-être trop. Et ce qui m'intéresse, oui, c'est le régime parfait. Je pense que c'est soit Léna, soit Alaric qui l'a trouvé, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Et il y avait vraiment cette idée, voilà, de mélanger, de suggérer, de montrer cette double application du mot. Et le régime politique, puisque dans le régime parfait, est Madame Pérez, donc la protagoniste qui parle toute seule dans son monologue, elle parle de... elle ne parle pas que de ça, hein, pas du tout, mais à partir de sa situation personnelle, elle va parler du régime qui est appliqué souvent assigné au féminin, ou disons, corps parfois menstrué, ou corps minoré au sens large. Et comment ces corps-là sont bien éduqués et forcés à moins manger.
C'est ça. Je vais dans certains passages quoi du livre où effectivement il y a un peu cette idée de que le régime alimentaire qui est celui des femmes depuis des millénaires, je sais pas, que c'est vraiment une entreprise de destruction de très grande envergure des femmes et que c'est une sorte de condition du coup d'un peu de demi-vie ou de vie annexe aussi.
Oui, c'est comme ça.
Et du coup, on arrive un peu à cette phrase à un moment qui est « Si on veut affaiblir la vie, autant l'arrêter tout de suite. »
Oui, c'est Madame Pérez qui dit ça.
C'est ça. Et il y a un peu aussi, dans cette phrase, je trouve quelque chose de l'ordre du raisonnement ou de la logique. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé assez... Bon, là, c'est marrant parce que, donc, pour les personnes qui nous écoutent, on vous raconte vraiment pas tout et c'est... Mais je pense que c'est pas mal aussi, quoi, je sais pas, d'aborder un peu comme ça, mais... En plus, c'est très à la manière du livre, quoi, d'avoir des choses frontalement, mais pas du tout explicitement, je sais pas comment dire. Mais ouais, si on veut affaiblir la vie, autant l'arrêter tout de suite. Voilà, c'est très logique, quoi.
C'est très logique, Madame Pérez. Elle est très rationnelle. En fait, je pense qu'elle a... Voilà, c'est pas une intellectuelle, mais par contre, je pense qu'elle a Elle réfléchit beaucoup, ça va très vite dans sa tête. Elle a confiance dans ses associations d'idées. Mais par contre, des fois, ces associations d'idées déraillent. Et en même temps, ça déraille, et en même temps, c'est très logique. Et j'ai l'impression qu'il y a juste ces deux mouvements-là qui s'activent dans le texte, et qui est venu aussi en écrivant... En écrivant à la main, bien sûr, tu vois, parce que j'écris beaucoup à la main dans un carnet, je m'oblige à ne pas raturer, à ne pas barrer, je garde tout. Et par contre, après, à l'ordinateur, je remonte. C'est un peu comme une sorte de montage, mais alors que j'ai l'impression que quand j'ai écrit à l'ordinateur, il y a vraiment cette. La pratique à l'ordinateur me pousse toujours vers plus d'effacement et à effacer les erreurs très vite et à pas les voir. Et donc, évidemment, comme c'est effacé, tu les vois pas. Et donc, tu la fais sauter et tu vas beaucoup plus vers la clarté, vers une espèce de... Oui, vers la clarté, on va dire. Alors que moi, je crois que ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans l'écriture du régime parfait, c'est ce que je voulais, c'était aussi faire émerger des zones opaques. Et des non-dits, des ellipses, des choses comme ça. Et pour sa logique, j'ai l'impression qu'elle se base beaucoup sur son expérience, ses sensations, mais peut-être qu'elle écoute aussi beaucoup la radio, Madame Pérez, et qu'elle elle est un peu forcée comme ça dans une sorte d'idéologie accélérationniste où elle doit aller toujours plus vite parce que son agenda est quand même plein avec ses trois enfants, elle a trop de choses à faire. Et puis il faut aller plus vite, quoi. Elle peut pas s'amuser à tirer son lait, s'occuper en même temps de faire un gâteau pour les autres enfants qui sont plus âgés. Enfin, toute cette gestion en fait de la nutrition, de devoir nourrir l'autre, entretenir l'autre, prendre soin de l'autre, ça c'est quand même, comme on le sait, beaucoup
de travail. Quand t'as parlé de l'ordinateur là. Qui pousse à l'effacement et au fait de supprimer les erreurs. Je sais pas, mais je me dis, c'est fou, en fait, comme la logique à laquelle se rend sensible le roman, en fait. Ce roman trouve des ennemis, même dans les moyens de son écriture, quoi. C'est-à-dire que t'es effectivement... ça risque de malmener la forme, qui est effectivement cette forme, du coup, qui quand même a persisté dans la version finale, de litanie ou en tout cas d'oralité très forte, quoi. C'est-à-dire qu'on entend une parole, une voix. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, quoi, que c'est. Enfin, on est très clairement dans la tête de quelqu'un, et c'est un discours à soi-même aussi. Ça, je trouve qu'on le sent. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai compris que c'était vraiment une très très grande solitude et que ça aussi j'avais envie de, je sais pas, de te parler de ça, de parce que ça m'a fait penser en fait au. Souvent on voit des fous, je pense qu'ils sont fous, hein, je sais pas, on les appelle comme ça dans la rue, on les voit et ils parlent tout haut et donc je pense qu'ils se parlent à eux-mêmes ou ils parlent à l'infini, ce qui est un peu pareil. En tout cas, c'est vraiment des conditions de solitude absolues, quoi. C'est vraiment le plus absolu. C'est vraiment, même, je dirais, c'est des gens invisibles, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on les regarde, on ne voit que parce que... Mais en fait, la façon dont eux se comportent, ils le font que parce que c'est la solitude absolue de quelqu'un d'entièrement invisible, ou qui se croit invisible, mais en tout cas... Et c'est une qualité de discours à soi qui est vraiment très rare. C'est-à-dire qu'il faut ces conditions pour entrer. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe toujours, ce qui m'a frappé dans Le Régime Parfait et que je reconnais aussi dans ces discours-là, c'est la répétition, par exemple, le caractère musical. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de phrases qui reviennent, qui se répètent. Tu pousses pas forcément ça très loin, mais on entend cette petite musique un peu de la folie qui est pas loin, quoi.
C'est vrai que ça correspond bien à Madame Pérez et à son monologue, ce que tu décris. Et moi, je fais très attention à ces paroles qu'on entend beaucoup dans la rue ou dans le métro, que tu décris justement, de ces personnes seules où en fait on ne sait pas à qui elles s'adressent, est-ce que c'est elles-mêmes ou pas. Et d'ailleurs, j'ai commencé à les noter. Je commence à faire une petite collection de ça. Plutôt des personnes sans abri qui demandent de l'argent et qui parfois argumentent, parfois n'argumentent pas. Donc ça, peut-être qu'un jour, ça existera. Ça existe déjà, mais de manière secrète. Oui, et puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de... c'est qu'en même temps, Madame Pérez, elle est très volontaire et elle veut changer des choses. Donc elle se convainc de pas mal de choses. Et je pense qu'elle... avant même d'argumenter, parce qu'elle est aussi, elle pense beaucoup aux instances qui l'entourent, donc aux instances de domination, qui la jugent, qui la condamnent, au tribunal des pères, au tribunal des mères. Et je pense qu'elle argumente à la fois pour ces instances et pour elle-même. C'est comme si elle se projetait dans une espèce de jugement, disons un jugement. Et je me dis aussi, je vois le lien avec des formes de litanie religieuse, comme on peut entendre des prêches. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une sorte de prêche intérieure qui a ce... Voilà, j'ai l'impression que c'est ce que tu décris aussi. C'est des boucles, mais en même temps, c'est une forme de prière, mais en même temps, on ne sait pas à qui ça s'adresse. Et en même temps, ça s'adresse à elle-même, évidemment.
J'ai noté un petit passage, je vais peut-être quand même le lire pour donner un avant-goût, parce que bien sûr tout le monde va aller lire le livre. On retarde parfois les choses au lieu d'agir, et puis finalement on oublie les choses à faire. Parfois on la voit venir, la petite catastrophe, et puis on se dit qu'on s'en occupera plus tard. Parfois, ce n'est même pas une petite catastrophe, c'est une grosse catastrophe, et c'est pareil, on se dit qu'on s'en occupera plus tard. On se dit que peut-être la catastrophe n'arrivera pas. Malgré tout, on a de l'espoir. On reporte pour éviter la catastrophe. En fait, non, ce n'est pas de l'espoir. C'est de la flemme. On n'a pas envie d'agir. C'est de la flemme, on reporte. Et on veut croire qu'on aura de la chance. On se dit que peut-être, avec la chance, la catastrophe n'arrivera pas. Mais la chance, ça n'existe pas. Ça me laisse un peu sans voix, mais... Que dire ? J'ai l'impression que c'est des états très, très importants. En fait, parce qu'il est question de catastrophe, je crois qu'on n'a pas encore prononcé le mot, mais c'est vraiment, il apparaît dans le livre, c'est un livre sur ce que c'est qu'une catastrophe. Mm-hmm. En fait, ce petit déclencheur de « au lieu d'agir », on retarde parfois les choses au lieu d'agir. En fait, le caractère catastrophique de retarder au lieu d'agir.
Il y a beaucoup de personnes qui ont lu le texte et qui ont vu, parce qu'il y a cette citation, enfin, il y a ce passage que tu as lu, mais c'est vrai que c'est un thème qui revient, je pense, 2-3 fois, puisqu'en fait, Madame Pérez, elle habite dans une maison castor, donc elle habite au premier étage, et elle habite au bord d'une rivière, et l'eau commence à monter, donc elle habite en zone inondable, elle est habituée à ce genre de risque. Et puis, elle se dit, bah voilà, il faut que je protège mon intérieur, avant que l'eau tâche tout, abîme tout, et aussi il faut qu'elle protège l'intérieur avant que ses enfants arrivent, parce qu'ils vont arriver normalement pour le déjeuner, et les enfants, ça en fout partout, évidemment. Même s'ils sont adultes, hein, ils en foutent quand même partout. Et donc, je pense qu'il y a voilà, beaucoup de personnes qui l'ont lu voyaient ça peut-être comme un lien avec la crise climatique ou avec oui, l'apocalypse qui arrive, quelque chose comme ça, mais en lien avec cette nature ou cette idée de nature qui va se venger. Mais en fait, ça, c'est un paravent dans le texte. C'est une sorte de façade qui correspond à une image dans le texte, mais c'est juste une image, puisque la catastrophe, c'est pas celle-ci qui arrive, mais c'en est une autre, mais on peut pas la dire maintenant.
Ouais, on peut pas la dire. J'ai l'impression que c'est quand même des conditions de vie très, très partagées. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu au-delà aussi de ce, justement, de cette exacte catastrophe qui a lieu dans ce livre. Et, je sais pas, c'est un... Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui est assez fort dans le livre, c'est que tu mobilises plein de choses qui sont presque un peu un inconscient collectif aussi, enfin, plein de choses ou des bouts de raisonnement ou de délire ou de comment on se fait un peu contaminer par des logiques. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti, quoi. Je me suis dit que... Enfin, moi, je pense vraiment que la logique, c'est vraiment quelque chose qui fait agir. Enfin, c'est-à-dire qu'on tombe dans des logiques, quoi. Je sais pas même... bon, je savais pas si j'allais en parler, mais c'est un peu dans mon arrière... penser aujourd'hui, mais je pense par exemple à ce qui se passe en Palestine en ce moment, et je me dis que c'est une logique génocidaire, c'est-à-dire qu'il y a même des prises de parole voilà, des autorités israéliennes qui vraiment expriment une logique et que c'est pas des actes décousus, et c'est pas seulement grave parce que in fine, il y a des conséquences de destruction et des conséquences génocidaires, c'est vraiment qu'il y a aussi une logique à l'origine, et c'est cette logique qui se déploie. Et complètement autrement, j'ai l'impression que ton livre, voilà, c'est vraiment de ça qu'il est question. C'est quelqu'un qui en fait se rend extrêmement sensible à une logique. Et cette logique, effectivement, aussi a un caractère destructeur, autrement, mais des fois la folie ou le délire est logique.
Absolument.
Et voilà, quand on revient à la réalité ou quand on... Voilà, là, on est justement, comme tu dis, il y a de l'opacité et c'est, voilà, finalement... On se porte bien quand on n'est pas trop logique, quoi. Et la logique, si vraiment on rentre dans sa pureté, on n'en revient pas, quoi.
C'est vrai que j'ai découvert bien plus tard, après que le livre soit sorti, parce que bon, donc, Madame Pérez est très logique, très rationnelle. Son fils Adam est insupportable. Il la pompe, etc. Et finalement, il est le représentant d'un tribunal des pères beaucoup plus large. Et donc, il y a ce régime. Et elle trouve une espèce de solution comme ça. Madame Pérez, elle a un côté très pragmatique, solutionniste. Et c'est ça, sa monstruosité, même si je l'aime beaucoup. Et que je voulais absolument aussi que, pour les lectrices, on puisse être en empathie avec elle. Et donc, c'est ça aussi où je m'étais dit... Comment tout peut être super logique, super argumenté, comment agit un personnage en survie, parce que Madame Pérez, elle est en situation de survie. Et voilà, la solution de Madame Pérez, c'est d'inverser donc les régimes de cruauté et donc de donner, de changer de nourrir autrement le monde qui est divisé encore en deux entre hommes et femmes. Petite fille, petit garçon, adulte garçon, adulte fille, etc. Jamais elle le dit plus comme ça, mais à peu près. Adolescent garçon. Et ces êtres assignés au genre masculin vont être nourris uniquement de bouillie. Pour que peut-être dans 10 000 ans, l'inversion puisse avoir lieu dans l'évolution. C'est-à-dire que les corps masculins vont maigrir, vont pas rapetisser, mais vont rester peut-être au même niveau, alors que les filles, elles, vont grossir, grandir, et peut-être qu'on arrivera à un régime d'égalité, évidemment un régime d'égalité absolument absurde, puisque c'est...
puisque logique.
Puisque c'est logique. Et j'ai découvert, bien après que le régime parfait soit sorti que, en fait, ce régime a déjà existé et que c'est une technique de torture. Donc, le fait d'affamer, de laisser des personnes sans manger, sans pouvoir se nourrir. Mais c'est aussi un régime qui existait dans le programme T4, qui est un programme qui a existé au début des années 40 en Allemagne, qui a été créé dans un hôpital psychiatrique pour que les enfants qui étaient soi-disant non viables ou indignes à la vie, comme la propagande nazie les nommait, pour ces enfants, donc, on leur donnait à manger seulement de la bouillie. Et donc, il y avait une dénutrition qui avait lieu. Au bout de 3-4 mois, ils décédaient. Parce que ces enfants n'étaient pas considérés... voilà, ils avaient soi-disant des troubles psy ou moteurs, etc., etc. Et en fait, c'est aussi la continuité de ce programme T4, ça a été les chambres à gaz. C'est sur ces enfants qu'on a testé les premières chambres à gaz. Donc des toutes petites chambres à gaz, comme des sortes dans des salles de bain. Une espèce de prévision comme ça de la Shoah. Voilà. Donc tu vois, Madame Pérez, elle a un côté comme ça qu'on pourrait trouver très drôle, où elle se venge un peu, comme ça, on se dit que c'est une sorte de blague. Et moi-même, quand je l'ai écrit, je me disais pas que ça avait existé quelque part un jour, une horreur pareille, mais en fait, c'est possible.
Mais pour moi, c'est aussi c'est intéressant parce que ça pose aussi la question de qui sont ces gens, par exemple, qui ont fait le programme T4. C'est que je pense que c'est aussi un peu des monsieur et madame tout le monde, en fait. Enfin,
surtout des monsieur.
Oui, voilà, mais je veux dire que oui, surtout des monsieur, mais oui, c'est clair. Mais bon, c'est en tout cas des personnes. Enfin, je veux dire qu'elle, c'est bon, voilà, c'est une Madame Pérez, mais je pense qu'elle a quand même quelque chose en commun. Enfin, en tout cas, moi, ce que je me disais d'ailleurs, quand je disais qu'elle était sensible à des logiques, c'est que justement, j'ai l'impression qu'elle était très sensible à la logique de la domination masculine, justement. C'est-à-dire que je me disais même, il y a des passages dans le livre qui expriment exactement, par exemple, les peurs, je pense qu'ont les hommes sexuels qui vivent dans la crainte d'être ridiculisés par une femme, qu'une femme trouve qu'ils aient un petit pénis rabougri. Et ça, vraiment, c'est des choses, il y a vraiment cette description, quoi, dans Le Régime Parfait, et je me dis que voilà, c'est vraiment un livre qui a capté cette logique un peu masculine, voilà, une des logiques masculines qui existent, quoi, mais en tout cas une, voilà, qui est vraiment destructrice, quoi, qui est quand même et cette logique là voilà, enfin, c'est celle des hommes, mais du coup elle peut même par rebond contaminer Madame Pérez, qui décide d'entrer dedans puisqu'elle décide de répondre presque de façon en miroir exact, quoi. Enfin,
oui, et en même temps dans une idée de contre-violence. Ouais. En fait, au tout début, je me disais, moi, je m'intéressais beaucoup, tu vois, à la contre-violence armée, aux groupes clandestins armés, et puis comment des groupes féministes non mixtes comme Rote Zora, qui est un groupe allemand des années, je crois, 70-80, qui a mené, genre, tu vois, une quarantaine de sabotages et de dégâts matériels très très importants. Je me disais, mais comment des personnes assignées au genre féminin peuvent s'armer, développer une forme de contre-violence qui ne soit pas forcément par les outils de l'État ou par la loi. Et en fait, je réfléchissais à ça et puis je me disais, mais en fait, là où n'importe quelle femme peut agir, c'est dans la cuisine. Parce que évidemment, c'est un peu en train de changer, ça dépend d'où on parle, de quelle partie du monde, etc., etc. Mais je me disais, là, il y a de quoi faire, quoi. Si le tribunal des mères s'associe, si Madame Pérez s'associe avec le tribunal des mères, et que le tribunal des mères accepte d'appliquer ce nouveau régime, je pense qu'il y a de quoi faire.
Et toi, t'es pour ou contre
Je prends ma partie, moi je raconte.
On peut enchaîner, il y a un autre mot, je crois, qui t'apparaît soit dans le livre ou dans la postface, mais le mot révolution. Enfin, je me suis dit, je sais pas, mais il y a eu... Là, quand j'étais en roue libre tout à l'heure, en venant, parce que je racontais que je suis venue en vélo et qu'à un moment, vraiment, ça descendait fort, quoi, et j'étais en roue libre. Et là, j'ai pensé à ça que donc, on sent, enfin, quand arrive la fin, qu'on raconte pas, on sent qu'elle est inéluctable. Moi, c'est le sentiment que j'ai en lisant, c'est-à-dire que c'est absolument inéluctable. Et pourtant, ça jette une lumière nouvelle sur tout ce qui précède. Et ce mélange-là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, est-ce que ce n'est pas aussi une des définitions de ce que c'est qu'une révolution au sens... voilà, c'est-à-dire que ça arrive et on ne peut voir que les signes du fait que ça va arriver. Enfin, c'est clairement inévitable ou... Voilà, et en même temps, ça... C'est quand même un énorme choc, quoi. Enfin, moi, c'est ça, c'est-à-dire que je sentais venir... En plus, tu m'avais dit, attention, la fin, il se passe quelque chose, donc...
Il faut lire jusqu'au bout.
Voilà. Moi, je finis jamais les livres, donc... Forcément, j'ai dû... Ouais, il me fallait un peu la carotte, quoi. Et du coup, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu la fin, quoi. Et c'est vrai que... C'est vrai qu'il faut lire jusqu'au bout. Mais... Non, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même ce truc où voilà, je sentais cette catastrophe. Enfin, on la sent arriver. Mmh. On peut même en deviner la nature et en même temps, ou en tout cas la supposer, ou voilà, se dire ça peut être ça. Et c'est quand même vraiment un choc. Il y a quand même quelque chose où en fait non, tout bascule et vraiment ce qui était avant, c'est quand même encore autre chose. Enfin, c'était pas du même niveau, c'était pas de la même, enfin, je sais pas, de même nature et voilà. Et du coup, Enfin, j'ai l'impression que, comme tu dis, voilà, par rapport à tes recherches sur la lutte armée ou des choses comme ça, ou les moyens spécifiquement féminins, j'ai l'impression qu'il y a quand même une réflexion sur oui, comment on fait advenir une révolution et que c'est, voilà, c'est vraiment par le chemin de la fiction. Je sais pas ce que toi, est-ce que tu penses à la révolution, c'est quelque chose c'est un mot qui t'occupe ou pas trop?
Pas tant que ça, mais je pense que c'était un mot qui était... Enfin, tu vois, qu'on entend beaucoup, peut-être moins en ce moment, mais bon, hein, je dirais qu'on a quand même beaucoup entendu. En tout cas, c'était un mot qui était autour de moi, ça c'est sûr. Et puis, en fait, il y avait aussi cette idée que... je pense qu'on nous a transmis l'idée que s'il y a une révolution, il y a un lendemain de révolution. C'est le fameux lundi soir, je crois. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait? Enfin, à partir du moment où les choses sont dissoutes, il y a un soulèvement, puis une dissolution, et qu'est-ce qu'on fait? Et en même temps, ça, c'est une vision assez traditionnelle, j'ai l'impression, de la révolution. Et alors que... Et Madame Pérez, elle se dit, bon, elle vise cette révolution, elle est obsédée par ça... Et en même temps, elle se dit que ça va toujours pas assez vite, qu'il faut 10 000 ans et que ça, c'est insupportable, on a plus le temps pour la démocratie, quoi. Elle est quand même complètement délirante. Et en elle se dit, mais bon, le problème, c'est qu'il y a une autre révolution qui arrive, ou une destruction, en tout cas, c'est l'apocalypse. Et donc... qu'il y a cette tension entre cette concurrence des lignes temporelles, d'un côté l'apocalypse qui arrive, et ce temps dont on a besoin pour aller jusqu'au bout de la révolution. Et les deux entrent en concurrence. Donc comment on fait maintenant? Comment on fait? Si l'apocalypse arrive trop tôt, rien n'aura changé. Enfin, en tout cas, c'est ce que se dit Madame Pérez. Au fur et à mesure, moi je voulais vraiment qu'il y ait... plein de signes qui soient donnés, mais qu'on les voit à travers une certaine perspective, et qu'à la fin, dans le basculement, tout ce qu'on a vu était bien là, mais on n'a pas vu ce qu'il fallait voir. Mais comme tu dis, j'ai l'impression que c'est comme si tous les ingrédients de la révolution étaient déjà là, mais qu'on n'a pas su les voir, on n'a pas su les rassembler, on n'a pas su... J'ai l'impression que c'est quelque chose de cet ordre-là. Elle voit, par exemple, que l'eau monte, que les déchets remontent, mais que l'eau monte de plus en plus. Et quand l'eau monte de plus en plus, peut-être que c'est d'autres déchets qui se révèlent.
Est-ce que c'est pas la question du déni aussi? Est-ce que c'est ne pas voir, ou est-ce que c'est voir et mettre de côté?
Oui, je pense que c'est cette même idée de catastrophe. Quand elle dit... On se dit qu'on voit la catastrophe arriver, mais en fait, on fait rien, on a la flemme. Et je pense que oui, c'est ça. Peut-être qu'on a un peu envie qu'elle arrive, finalement. Bon, c'est un peu trop psy, ce que je viens de dire.
En tout cas, à propos de envie que ça arrive et de flemme, je crois que le mot flemme apparaît dans la chanson de Megumi Satsu.
Oui.
Non, paresse. Le mot paresse.
Le mot paresse. Oui.
Et donc,
et ça arrive avec caresse.
Ouais. Ouais.
Elle a d'autres résultats, Megumi.
Bah, c'est ça, en fait. Mais quand même, finalement, c'est un peu les mêmes questions, quoi. Un peu. C'est la flemme. Enfin, qu'est-ce qu'on. Ouais, qu'est-ce qu'on fait de la flemme et de la paresse? On écoute.
Moi, je n'ai pas besoin de toi pour faire l'amour. Je peux le faire chaque fois sans ton secours. Bien sûr, parfois je pense à toi, le souffle court. Mais je ne suis pas dans tes bras au petit jour. Je m'aime. Je possède une chambre interdite, imaginaire. Le soir venu, je la visite en solitaire, avec le désir qui m'habite et la colère. Je me déborde et j'imagine, je fais la guerre. Je m'aime. Et si la main qui me caresse n'est pas la tienne, elle fait preuve d'une tendresse moins incertaine. Puisque je connais mes faiblesses, je suis sans gêne. Je m'abandonne à ma paresse. C'est mon domaine, c'est vrai. Je m'aime.
J'ai l'impression que je pense par les aisselles, que c'est vraiment là que là ça chauffe quand je parle et que le reste.
Je soulève un peu mes bras, je fais passer de l'air un peu.
Ouais, on va faire ça. Je vais faire pareil.
Ouais, c'est j'ai gardé bien. Mes lunettes aussi. Tu m'as dit que j'avais droit.
J'adore c'est... donner l'autorisation ou pas. C'est toujours. Ouais.
Tu m'as
plaisir.
Dit c'est une prothèse. Et puis on a quand même chaud aux oreilles.
Moi, je considère ça. J'ai toujours un avis, d'ailleurs, quand on me demande quoi que ce soit. Et donc là, l'avis, c'est que la catégorie pour les lunettes, c'est la catégorie prothèse.
Donc,
t'es nu, même en venant avec tes lunettes, du coup.
Et on a les oreilles au chaud, sous le casque.
Ouais. Bah ouais. Cette chanson, je sais pas, moi, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Elle est vraiment très belle. Là, je la réécoutais tout à l'heure et je me disais que ce qui est beau, c'est qu'en fait, elle parle à quelqu'un. J'avais pas fait attention au début, mais c'est pas seulement. Enfin, elle dit je m'aime, mais elle dit tu à quelqu'un.
Ouais, c'est vrai.
Qui est absent. Et vraiment, je trouve ça très beau de sentir qu'elle aime cette personne et qu'elle s'aime tout autant, voire un tout petit peu plus, peut-être. Je dirais un peu plus, parce qu'il y a des passages sur comment elle parle de sa propre main, par exemple, quand elle se touche, qui a peut-être un peu plus de tendresse, ou parce que comme elle se connaît très bien, elle est un peu plus à l'aise. Je sais plus, il y a un truc un peu comme ça.
C'est vrai. J'aime beaucoup Megumi Satsu. C'est une chanteuse, je pense, des années 80. Et aussi dans le clip, elle apparaît devant un miroir. Donc elle a ce côté comme ça, c'est très littéral, c'est ça qui est bien dans ce clip. Et puis elle s'écroule un peu à la fin, un peu par terre. Elle a un côté lyrique, super dark.
C'est un peu une chanteuse de cabaret, c'est ça ? Puis elle a un look très cabaret un peu.
Très cabaret, avec beaucoup d'épaulettes, de cuir, peut-être aussi des matières un peu transparentes, genre organza. Et cette chanson, je ne sais pas si elle qui l'a écrite, mais il y a aussi, elle avait demandé à Roland Topor et à Jean Baudrillard de lui écrire des chansons. Et ils ont sagement dit oui.
C'est pas très sage comme chanson, par contre.
Ah, tu trouves ?
Ah, je sais pas.
Ah, moi, je trouve ça très clairvoyant. Très lucide.
Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'est extra lucide. Il y a une phrase, je sais pas encore trop quoi pour dire, mais qui me reste, et je sais pas où elle m'amène, quand elle dit « Je possède une chambre interdite imaginaire ». Et je me suis demandé si dans cette émission, j'essayais de créer une chambre interdite imaginaire. Mais peut-être pas quand même, mais je sais pas.
Mais en même temps, elle est pas si imaginaire que ça, parce qu'on y est.
Oui, mais comme c'est pas interdit, du coup, on est peut-être dans une vraie pièce permise qui serait peut-être un petit peu aussi une chambre interdite imaginaire. Tu vois, un peu en contrebande, quoi. En plus d'être une chambre...
Mais ça me fait penser à ton texte. J'ai envie de lire un bout de ton texte.
Tu veux lire ?
Oui, le cœur solide. Encore une fois, je passe l'après-midi à me masturber dans la maison familiale. Sous les draps, je pose un doigt sur ma langue et l'enfonce en regardant la porte jaune. Les bruits sont comme étouffés. J'entends lointainement quelques pépiments d'oiseaux. Je glisse ensuite mon doigt mouillé sur mon sexe, la tête tournée vers la fenêtre. Je regarde les arbres du jardin, bien plus haut que la maison, à travers lesquels une lumière de printemps passe. Mon regard est accueilli par les mille nuances de vert, les jeux d'ombre, chaque feuille différemment inclinée. Sur la droite, le mur de la maison est un bout du toit, et un bout du toit encadre les feuillages et le ciel. J'enfonce ensuite mon doigt à l'intérieur de mon sexe qui est brûlant, et le ressort pour le rentrer à nouveau. Par moments, mes yeux se ferment. J'imagine des hommes, glissant des serpents et des cailloux en moi, qui prennent ma chair avec une tendresse inanimée. Ils entrent, ils m'emplissent, ils ressortent pour s'enrouler, glisser comme une pluie et entrer à nouveau en moi. Je l'imagine entièrement soumise, je m'imagine entièrement soumise. En jouissant, je sens se former sur mon visage une expression de surprise et de plaisir. Chaque orgasme s'imprime différemment en moi. Prête, je m'installe aussi longtemps que possible dans l'orgasme. Les quelques secondes sont étirées comme des années. Ensuite, doucement, je reprends conscience de la lumière, du plafond blanc strié d'ombre et de la position de mon corps. Le cœur battant, je reste quelques instants allongé, la main entre les jambes. Je recommence à tendre l'oreille au bruit de la maison. Je me souviens que c'était le passage qui m'avait beaucoup marqué dans ton livre, parce que ça me rappelait des souvenirs.
Voilà. On s'est dit qu'on parlait de masturbation, parce que c'est quand même... on parlait de toutes ces sortes d'instances de destruction, et c'est vrai que là, c'est quand même ce que raconte Megumi Satsu, ce récit dans Le Cœur Solide, c'est quand même des moments où on arrive à vraiment, je sais pas comment dire, mais cette question justement de la vie qui est très malmenée, enfin dans le régime parfait, cette question d'une demi-vie qui devient un quart de vie, même un dixième de vie, et jusqu'à plus être une vie du tout. Et là, c'est vraiment pour le coup la vie. Je trouve que c'est la masturbation.
C'est un très bon résumé.
La vie. Et ouais, moi, ce que je voulais aussi te... Je sais pas. La raison pour laquelle je voulais parler de masturbation, c'est aussi le rapport à l'écriture. Je me suis dit... Parce qu'en plus, j'avais entendu, je sais pas, quelques jours avant, quelqu'un se faire insulter. Enfin, un ami qui s'est fait insulter par le producteur de son film. enfin, qui lui disait que c'était de la masturbation intellectuelle, son film. Et du coup, moi, voilà, bon, comme souvent avec les insultes d'ailleurs, mais je me dis beau compliment. Et du coup, quand même, je me suis dit, oui, il y a quand même un rapport entre la masturbation et l'écriture. Et je me suis dit que tu avais peut-être, je sais pas, peut-être des choses, je sais pas.
Bah, ça me fait penser à un texte que j'ai écrit qui s'appelle Éjaculat et Capital, où est mis en scène un personnage, un corps menstrué, qui raconte qu'elle écrit et que, voilà, selon le moment du mois, et donc des moments plus ou moins hauts, bas, des hormones, du cycle menstruel, elle écrit plus ou moins. Et elle s'est toujours fixé un but de 1500 signes par jour. 1500 signes, ça représente à peu près un feuillet. Et c'est vrai qu'au début du cycle, 1500 signes, c'est OK, elle y arrive. Et entre le jour 1 et 10, là, c'est même 1 à 14, je crois, là, ça y va, quoi. Jusqu'à l'ovulation, ça balance, quoi. et ça balance. Et elle se masturbe aussi. Enfin, elle a aussi des envies de se masturber pendant l'écriture. Donc, elle raconte ça. Et comment les orgasmes, le nombre d'orgasmes entraîne un certain nombre de signes supplémentaires. Et mais bon, après, il faut le lire. Mais en tout cas...
Toi, tu recommandes ça, du coup, pour l'écriture, de se masturber
Ouais, je crois, ouais. Ouais. Je trouve que ça amène quand même à bien être concentré. Hein.
Mais moi, je le fais aussi. J'ai l'impression que c'est un peu une gestion de l'énergie aussi. Mmh. Parce qu'en fait, finalement... si on prend par exemple beaucoup de café ou même, je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui prennent des drogues, moi j'en prends pas trop pour travailler, mais en fait il y a quand même ce truc de contre-coup, au bout d'un moment ça marche moins, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment le café typiquement on devient un peu, enfin on tremble, on est plus très clair, alors que quand même se masturber ça donne une décharge énergétique, vraiment il n'y a pas de mauvais côté, quoi. C'est-à-dire on est, en fait ça je sais pas comment dire, remet l'attention... dans un état un peu frais, un peu neuf, et ça donne de l'énergie, ou en tout cas ça te décharge, je sais pas, de l'énergie, il y a une sorte de quelque chose qui se passe, et il n'y a pas de redescente, ou de, je sais pas comment dire, de mauvais côté. Mauvais...
Ben non, pas du tout, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que, enfin moi je travaille plutôt le matin, j'écris plutôt le matin, mais j'essaie de commencer vers 8h, et généralement vers 8h, bah, bon, c'est assez frais, on est assez fraîche, quoi. Ça, voilà, les phrases arrivent, on n'a pas besoin de beaucoup se concentrer, mais bon, au bout de 2-3 heures, moi, généralement, j'ai du mal. Enfin, t'as toute cette, tout ce dont t'as pensé depuis 2-3 heures qui est là, qui se mélange, qui se répète, nanan. T'es déjà un peu lassé de toi-même et lassé de ta pensée. Et je crois qu'en fait, oui, se masturber, ça aide à aller, comme tu dis, à te décharger et en même temps, ouais, à faire table rase.
À propos de rats et de rases, je vais lire le dernier extrait. Je continue de regarder cette baise lente et profonde. Gaël, toujours le poing droit dans la bouche, fouille maintenant l'anus de Michel avec la main gauche. Je verse du lubrifiant sur Michel et Gaël. Je l'étale, tout glisse. Les limites s'annulent. On respire ensemble de plus en plus fort. Je caresse le crâne mal rasé de Michel. Puis j'attrape fermement les deux chaînes qui encadrent le haut de son corps. Je grimpe sur le sling. Gaël retire le poing de la bouche. Mon poing entraîne l'ascension de l'anus de Michel, toujours rempli par Gaël, alors que son crâne, dans un contre-mouvement, se rapproche du sol. Je m'accroupis sur la balançoire au-dessus de Michel. Gaël se retire tout doucement, se déplace et lubrifie son crâne, mon cul, ma chatte. Je glisse, mes deux trous contre son front, du pariétal au frontal, et j'oublie, ça glisse, il ferme les yeux. Je vois des galaxies. Gaël le pénètre de nouveau. Il hyperventile. Je sens son accélération cardiaque contre mes tripes. Et l'endurance de Gaël me dilate. voir son poignet tourner, creuser, mes arrières s'ouvrent encore. Je ne sais plus par où ça rentre, par où ça sort. Michel se tortille. On dirait qu'il n'est plus vraiment d'accord. Gaël me dit « Vas-y ». Si elle le dit, tout est possible. Elle me l'ordonne. Engloutis-le. Mes entrailles s'élargissent, ça mouille, ça tire, ça écartèle. La puissance d'aspiration de mon sexe atteint son max. Je gobe le crâne de Michel. Eh oui. Donc, c'était...
Le texte s'appelle « Pour nos arrières », si je ne me trompe pas. Et ça a été publié dans la revue « How to become the Daughters of Darkness », qui vient de sortir. Voilà. Et ça, c'est tu as lu donc la fin du texte, où la protagoniste se trouve dans un backroom avec Gaël Rubin, qui est une sociologue et peut-être même philosophe américaine, états-unienne de la côte ouest, et Michel Foucault. Et donc, elle assiste à ce headbanging par elle-même. Et en même temps, elle se pose cette... Enfin, la question est posée. Est-ce que Michel Foucault est d'accord? Et est-ce que on peut considérer... Est-ce qu'on pourrait penser à la question du viol autrement que par la pénétration? Mais si on englobe quelqu'un, on engloutit quelqu'un sans qu'il soit d'accord, est-ce que ça s'en est un ou pas?
Je pense que c'est vraiment une très bonne question à garder avec nous. Je me suis demandé un petit peu aussi si c'était une métaphore de l'histoire de... Enfin, on va dire du mouvement des idées, quoi. Est-ce que c'est un peu ta sorte de marraine, Gaël Rubin, qui te dit « Estelle, on va défoncer Michel Foucault ensemble ». Enfin, est-ce que c'est une métaphore de... Voilà, en tant qu'autrice et...
Ouais. Écoute, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de prendre un savoir. Prendre un savoir avec nos puissances d'aspiration.
On va commencer à décrire peut-être les vêtements qu'on va remettre, non?
Bah écoute, il y a donc cette espèce de robe de chambre que j'ai amenée, qui est en tissu avec une sorte de motif pas très beau, un peu bordeaux et bleu marine, mais c'est une robe de chambre... que j'aime bien la matière parce qu'elle n'est pas trop chaude, parce que souvent le peignoir, je trouve ça un peu trop chaud. Et donc je vais remettre ça. Ensuite, je vais mettre quoi Ah ben non, je ne vais pas le mettre tout de suite. D'abord, j'ai des sous-vêtements, un pantalon et un t-shirt. La chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'imperméable. Parce qu'au début, j'hésitais à venir avec seulement un imperméable. Et voilà, à me dire bah, je suis nue sous mon imperméable, je traverse la ville. Et puis j'arrive et puis je l'enlève. Et puis ça me semblait hyper simple. Et puis en fait, je crois qu'il fait trop froid. Je crois que j'aurais eu peur qu'on me démasque dans la rue.
Ça restera un fantasme, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Ouais. Et moi, qu'est-ce que je vais remettre? Donc je suis venue avec... J'avais une chemise en soie violette et qui était trempée parce que je suis venue à vélo, que j'étais en retard. J'espère qu'elle a séché là. Faut que je la remette, que ce soit pas trop désagréable. J'ai un pull par-dessus avec des carreaux gris et noirs, à col rond, un peu trop chaud, j'ai cru qu'il faisait plus froid. Un jean bleu, très simple, des chaussures un peu de rando marron, et j'ai un manteau noir.
Ça va être bien ça.
Ouais, ça va être bien. Ça va, t'es contente de remettre tes vêtements?
Bon, en fait, on est bien comme ça.
Ouais, hein, en fait, peut-être la flemme.
Pourquoi on a les vêtements, en fait?
Ouais. Mm. Bon. On va peut-être pas se rhabiller, on va peut-être laisser un peu ce suspense.
Ouais, oui.
En fait, faudrait juste qu'on n'ait pas froid ou qu'on reste.
C'est vrai que je pense avoir froid aux mains. Mais pourtant, j'ai pas de moufles.
Tes
hein.
pieds, ça va mieux?
Ça va mieux. J'ai pas de moufles, j'ai pas de gants, mais par contre, est-ce que Megumi, elle a des gants? Parce que je la verrais bien avec des gants, Megumi, Satsu. Mm-hmm. On aurait pu être nus avec des gants, des chaussettes et des gants.
C'est vrai qu'on, je me disais qu'on aurait pu On peut accessoiriser un petit peu. Moi, j'ai enlevé, j'avais une bague, par exemple. Toi, t'avais des bijoux ou non, t'as pas...
Non.
Non.
J'ai juste un seul ongle qui me reste, prothèse ongle sur mon pouce droit.
Ah ouais, c'est une prothèse, ça compte comme une prothèse.
Bah oui, c'est une plastique. Une griffe en plastique.
Bon, bah c'est bien, on va pouvoir se griffer.
En rose à paillettes.
Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire? Une dernière chose, ou est-ce que c'est bon?
Merci Aaron.
Oh, merci Estelle. Merci du...
Merci du...